Ben, je dirais que ça dépend bien sûr du pays hein, dont la personne veut venir. Il y a des pays où maintenant c'est extrêmement difficile de demander le statut de réfugié. Je pense au Mexique, et c'est dramatique d'ailleurs. Mais je pense que aussi dans des pays lointains, c'est sûr qu'il faut mieux passer, essayer de passer soit par des réseaux qu'on connaît mais qui sont déjà installés ici et donc pas par des avocats ou bien des personnes extérieures qui effectivement souvent vont essayer de vous avoir et de prendre votre argent encore un peu plus. Il faut bien bien se renseigner de ce qui se passe au niveau du gouvernement. Bon, le gouvernement du Canada dit on a des bons sites internet, oui, sauf que quand on a besoin de se réfugier, on n'a pas forcément ni le temps ni les moyens d'aller consulter les sites internet du gouvernement du Canada. Donc bien se renseigner par rapport avec des personnes qui vivent déjà ici, qui ont obtenu le statut de réfugié ici. Il y a des associations ici auxquelles on peut faire confiance qui sont de cet ordre-là. Et puis autrement, sur le plan public, ben, le Haut Commissariat aux réfugiés est quand même l'instance à laquelle on peut faire complètement confiance là et qu'il faut regarder de près.
Et au Canada, comme tel, si vous aviez un nom d'un organisme, une sorte de portail ou au moins diriger un premier appel, ce serait lequel?
Le Conseil canadien des réfugiés.
Et on peut s'exprimer dans la langue de son choix, si,
Absolument.
ouais.
Et ça, c'est très important aussi, hein. Je pense que autant les questions linguistiques, on connaît leur importance quand il s'agit d'immigrants indépendants, autant quand il s'agit de réfugiés, ben, c'est très important de mettre à leur disposition toutes les informations possibles dans la langue qu'ils parlent. Et puis, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on le voit au Québec, c'est important que les immigrants parlent le français, que les réfugiés apprennent le français, les réfugiés terminent des formations ici, les réfugiés participent complètement à la vie économique et sociale du Canada et du Québec, sont des personnes impliquées. Et donc, il faut leur faire confiance, il faut leur donner de la place.
Et à quoi s'attendre du côté de la santé, des soins de santé? On a des enfants, on tente de trouver refuge, et puis c'est essentiel, c'est la première chose à laquelle on pense, ces enfants.
Oui. Ben, effectivement, on est inquiet aussi, hein, parce que les mesures canadiennes ont fait que certaines personnes qui demandent l'asile n'ont pas accès à des soins de santé. Ça, c'est très inquiétant parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui souvent vont avoir justement des problèmes de santé et on risque de les mettre dans une situation extrêmement difficile. Bon, au Québec, je dirais qu'on a quand même une situation un petit peu meilleure étant donné que le gouvernement du Québec a décidé de remplacer, de se substituer finalement au Canada pour les personnes qui n'avaient pas droit à des soins de santé quand il y a des besoins importants. Les enfants ont des besoins au niveau de la santé, mais les enfants aussi des besoins au niveau de l'école, de l'éducation, et c'est majeur que tous les enfants qui sont ici, peu importe leur statut, aient accès à l'école. C'est un droit de l'enfant, l'éducation. Et là, on voit trop, effectivement, je pense qu'il y a eu des articles dernièrement là-dessus, on voit trop d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. Tous les pays développés et même les pays en voie de développement donnent accès à l'école pour les enfants, quel que soit leur statut, qu'ils soient légaux ou illégaux. C'est absolument impensable que le Canada n'en fasse pas autant.